À bâtir une maison.
Ce que je trouve le fun, c'est quand ils sont avec leur grand-père, ouais. ils ont une curiosité que moi, j'ai jamais eue.
Ouais.
Fait que ça console mon grand-père, probablement, qui me considérait comme un échec à tous les niveaux. Mais
ça me
non,
touche, en dire.
Mais non, mais c'est parce que je me souviens, tu sais, que mon père a tellement essayé de m'intéresser. Mon père, c'est un gars de bois.
Ouais.
Mon père a essayé de m'intéresser à la chasse. Mon père a essayé de m'intéresser à la pêche. Mon père a essayé de m'intéresser à me construire un camp dans le bois. On a fait du sirop d'érable chez nous. On a fait des jardins qui étaient immenses. Je m'en sacrais comme l'an 40. Je voulais regarder Goldorak à la TV.
Est-ce que tu as des remords?
Oui,
ou des regrets?
Beaucoup.
Parce que c'est du temps aussi avec ton père. C'est de l'apprentissage aussi. Mais c'est... Où se situent tes remords et regrets?
Ben, en fait, c'est qu'on restait en campagne dans un endroit où il y avait beaucoup d'obligations. Puis mes parents viennent de familles où eux autres, ils ont tout eu à faire. Fait que quand ils ont eu des enfants, eux autres, ils se sont dit, ben, nos enfants, on va leur laisser le choix. Ils contribuent ou ils contribuent pas. Mmh. Et quand tu laisses le choix à un enfant, plus souvent qu'autrement, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il essaye de contribuer le moins possible. Puis oui, j'en ai des regrets. Puis en même temps, je vois ce que je suis en train de faire avec mes enfants. Puis là, le fait que ma blonde vive avec nous autres, ça commence à changer l'optique un peu parce que je suis enligné bien pareil. Ouais. Alors que ouais. ma blonde connaît le grand flamou que je suis. Puis elle voit les enfants qui s'enlignent un peu pareil, puis là, elle commence à lui montrer, tu sais, des petites responsabilités de base, genre, c'est pas à papa de tout desservir la table, c'est pas à papa de tout mettre dans la vaisselle. Je t'entendais parler de ça cette semaine.
Toi, t'allais être la méchante là-dedans?
Ben, c'est pas nécessairement la méchante. En fait, les gars...
On s'en rend pas compte, Pascal.
Les gars le font.
Mais on s'en rend pas compte que des fois, on fait des affaires pour nos enfants qu'ils seraient capables de faire eux-mêmes.
Mais moi, je suis comme ça. Mmh. Puis des fois, je vais chez des amis où je vois des enfants qui ont l'âge des miens, qui font tout seuls, qui aident à faire de la bouffe. Je reviens chez nous, je suis complexé. je capote.
Ouais. Moi, c'est ma blonde.
Ça dit comme ça.
Ma blonde, elle m'a dit, tu sais, Yann, tes enfants sont capables de mettre ce qui reste dans leur assiette, là, sont capables de le mettre dans la fameuse poubelle mauve qu'il y a chez nous. Là.
C'est drôle que ça prend un œil, pas extérieur, mais que ça prend un nouvel œil pour...
À date, il est féminin là, dans les deux
cas. Je pense que c'est parce que c'est dans notre quotidien. On fait toujours la même affaire.
Mais là, vous respectez quand même ces commentaires. Est-ce que vous avez jasé avec vos conjoints?
Alors, faut que tu l'accueilles.
C'est quoi? Ben, c'est ça, là, parce qu'il y en a qui n'aimeraient pas ça que la conjointe ou le conjoint parle de même aux enfants.
Non, ben moi j'accueille ça beaucoup parce que je trouve ça extraordinaire de voir des enfants qui sont un petit peu plus autonomes. Mais...
C'est de l'amour aussi de ta conjointe envers eux faire ça.
Mais c'est un défaut. T'sais, moi, je suis père poule. Puis j'ai été forcé d'être père poule. T'es un parent monoparental. T'as déjà l'impression qu'il manque des affaires. Fait que t'essayes de tout combler, t'essayes de tout patcher, puis tu deviens, tu fais de l'angoisse avec ça quasiment. Puis, bon, ben après 2 ans de thérapie puis de médicaments, ben je commence à laisser aller les choses un peu. Puis
le médicament, j'ai chaloux.
je m'auto-médicamente. Mais tu sais, à un moment donné, juste de chiller out, de prendre ça un petit peu plus cool.
Je pense que c'est parce qu'on est pogné dans notre routine des fois qu'on a besoin d'un coup d'œil extérieur.
Ouais.
Sûrement, puis je sais pas, mais je suppose et j'émets une hypothèse que ça va vite. Hein. Les routines, il faut que ça aille vite. On a toujours des engagements. Le faire vous-même, peut-être aussi que ça économise du temps.
Très bon point.
Mais ça
je veux pas que mes gars fassent le lit. C'est long puis c'est pas bien fait. C'est pas fait à mon goût.
Il faut avoir un lâcher prise là-dessus parce que là, à un moment donné, ils vont évoluer puis ils vont apprendre par ça. Mais où?
Mais le lâcher prise vient la première fois où tu te rends compte, je vis avec ma blonde qui plie pas son linge comme moi je plie mon linge. Mm-hmm. Fait qu'il faut que je laisse aller ça. Mais je suis tellement obsessif compulsif, ça n'a pas de maudit bon sens. Je redéplie les affaires pour les replier
dans son propre linge à elle.
Je l'ai encore fait à matin. Non, c'est parce que mes boxeurs, moi, j'ai les plié en deux. Ah. Elle les plie en trois.
Mais elle les plie pour toi.
Mais c'est parce qu'en trois, ils prennent plus de place dans le tiroir. Okay. Puis je suis obligé de peser. Ben fait que j'ai déplié puis j'ai replié en deux. Malade dans la tête. Malade dans la tête. Je sais pas ce qu'elle fait là.
Pourquoi elle touche à mes boxeurs?
Je pense qu'elle va atteindre le paradis. Elle veut gagner son ciel. C'est comme son bénévolat.
Oui, je pense que oui.
La centrale des syndicats du Québec qui se pose des questions actuellement sur les changements climatiques versus nos enfants qui sont à l'école, versus leurs travailleurs aussi, parce que c'est un syndicat. Et là, on est en train de se poser des questions dans l'actualité, à savoir, est-ce qu'on pourrait avoir des congés de canicule? Puis j'étais pas trop sûr de quelle façon ils géraient leurs congés pédagogiques, puis là, de quelle façon ils voulaient mettre les congés canicule et tout ça. Puis avec l'aide d'Audrey Pinchot, on a réussi à rejoindre Sylvain dans la cause.
Oui!
Puis là, je me posais des questions pour ce qui est des fameuses tempêtes. Si il y a moins de tempêtes qu'on pensait, puis qu'il nous reste des congés de tempête, est-ce qu'on les reprend encore, ces congés-là, quand il fait beau puis il n'y a pas de tempête? La réponse, c'est oui.
Ouais.
Donc là, ce que les syndicats se demandent, c'est est-ce qu'on pourrait avoir des congés canicules aussi? Puis là, je me dis, mais où est-ce qu'on est rendu, tu sais? Où est-ce qu'on est rendu dans toute cette structure-là où le ministère de l'Éducation doit proposer des endroits qui sont quand même vivables pour les enfants puis quand même vivables pour les employés versus des congés qu'on donne en prévision qu'il y a des tempêtes parce qu'on connaît des intempéries au Québec. Et là, quand il n'y a pas de tempête, mais il reste des congés, on prend ces congés-là vers la fin de l'année pour donner un break à tous les enseignants puis tous les élèves.
C'est drôle, hein, parce que je trouve que la question qu'on se pose au final de la réflexion est pas mauvaise, mais je pense qu'elle part pas de la bonne place. Puis en même temps, ben, quand on arrive à une bonne question, il faut la prendre et l'accepter. Le nouvel aréna, le centre Vidéotron, il n'a pas été fait pour les bonnes raisons. Il a été fait parce qu'il y avait une élection à gagner. Il a été fait par opportunisme politique. Il a été fait pour un paquet de raisons qui n'étaient pas les bonnes. Il a été fait pour amener Nordique, puis on a manqué notre connestie. Mais l'aréna, on avait besoin d'un aréna neuf et on a fait un aréna neuf. Des fois, la fin justifie les moyens. Je pense pas qu'il faut partir des changements climatiques puis des congés tempête juste pour se demander « Hey, il y a des histoires d'horreur dans des écoles où ce qu'on est juste pas capable de tempérer. On peut-tu caller off au lieu de regarder souffrir des jeunes puis des étudiants? » Je sais pas si tu as lu, je pense que c'était il y a 2-3 semaines dans le Journal de Québec, puis ça concerne des écoles en particulier où, en plus d'avoir un problème majeur de ventilation, il y avait des travaux qui avaient été faits, puis dans les classes, c'était du 40-42 degrés Celsius pour faire des examens du ministère.
Dans les fameuses... les fameux conteneurs ajoutés aussi, là.
Oui.
Il n'y avait pas d'arrime au début.
Puis tu sais, je comprends, Yann, que dans notre temps, il faisait chaud, puis on y allait avec une soute de skidoo. Pour être plus tough.
Et on marchait 20 km.
Oui, on marchait 20 km, puis des congés tempête. Nous autres, on gardait ça pour les momounes. Hein?
Oui.
Le monde a changé. Mais le questionnement ne devrait pas partir des changements climatiques ou des considérations environnementalistes. Il y en a, puis c'est tant mieux. C'est de la qualité décrépite de plein d'écoles. Moi, je me rappelle de l'école où j'allais quand j'étais petit, une boîte à beurre. Ça s'appelait le Roseau. Le Roseau, il n'y avait pas de clim, il n'y avait pas de zone d'ombre, il n'y avait pas de parc de jeux, tu avais 2 poteaux en métal. Je veux dire, dans ces circonstances-là, quand il fait 43 degrés d'une classe, probablement qu'on aurait été mieux chez mon ami François dans la piscine, sur la rue Verdun. Tu sais, fait que moi, de dire, quand dans des conditions comme ça, quand une école n'est pas capable d'offrir d'alternatives, moi, je suis chanceux, mes deux gars vont dans une école extraordinaire. L'école, quand il fait chaud, il fait chaud. Mais il y a un milieu extérieur.
Ouais.
Tu peux aller dans le parc, mais mes gars, ils ont eu des cours à l'extérieur, à l'ombre d'un arbre.
Ils se sont adaptés.
Je trouve ça beau puis romantique, mais
j'aime ça.
Je suis pas sûr que toutes les écoles ont l'infrastructure autour pour être capables justement de faire ça.
Parce que l'idée, ce serait de tempérer toutes nos écoles.
Ben oui,
mais
ben
quand
oui.
On, c'est, mettons qu'on va chercher de l'expérience ailleurs. T'sais, aux États-Unis, quand il fait trop chaud, ben des fois, ils font commencer les jeunes plus tôt, puis ils finissent plus tôt aussi.
Bonne idée.
Dans l'après-midi, quand il fait extrêmement chaud, il n'y a pas personne qui va à l'école. Même affaire pour ce qui est du Mexique, c'est à peu près la même affaire. Commence plus tôt.
On devrait commencer à faire ça, nous autres, l'après-midi, la siesta.
Oui, ben oui.
Puis Ravel, dans le retour, finira à 3h.
Non, mais c'est la question de s'adapter.
45.
Parce que c'est comme de... On a déjà des congés pédagogiques, des congés de tempête qu'on met sur le calendrier. Puis si on les utilise pas, ben on les reprend à la fin de l'année pour se donner d'autres congés. Fait qu'on considère que les congés tempête, en fait, c'est des congés. Puis là, on veut rajouter ça pour des congés de chaleur. Je me dis, mais... Moi, là, quand tu me dis, Yann, il fait 42 dans la classe,
ouais.
Si t'es pas capable de t'adapter, ferme l'école.
Ouais.
Mais dis-moi pas, ouais, mais là, on n'a pas fermé l'école, mais on va la fermer dans un moment où il va faire beau.
Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on n'aime pas l'uniformité.
Ben
moi,
oui.
Je pense que le gars qui est directeur d'école, qui est dans l'école à tous les jours, est capable de constater qu'à 43 degrés,
ça n'a pas de bon sens.
S'il y a juste du parking de béton tout le tour puis qu'il n'y a pas de parc proche, mm-hmm. Ben c'est peut-être pas une méchante idée de consulter les parents puis de dire, hey, je pense que quand sur le mercure, il va marquer 35 en montant, on va vous demander de garder les flots, puis on va passer une journée. Ça va être plus bénéfique pour tout le monde.
Je vais te dire, ce qui me titille, c'est qu'au début de l'année scolaire, il reste encore de grandes chaleurs. Fait que ça, on a 4, 5, 6, 7, 8 jours de grandes chaleurs. C'est quoi? On ferme l'école pendant 4, 5, 6, 7, 8 jours?
L'idéal, ce serait de prendre ces écoles-là puis d'améliorer le milieu de vie. T'sais, l'idéal, ce serait d'avoir des écoles où il y a de la ventilation, où il y a de la climatisation, puis pas juste dans les salles de professeurs. Mais on est rendu avec le système d'éducation qu'on a. Il manque des milliers de professeurs, il manque des milliers de techniciens. Les écoles sont dans un état qui est lamentable, qui fait pitié. Puis on en est rendu là. Ma théorie, c'est qu'on n'en est pas rendu là en raison des changements climatiques. On en est rendu là parce que nos écoles ont juste
plus d'allure. On s'est pas occupé de nos affaires.
C'est triste. Puis on avait une belle école qu'on était en train de monter dans mon coin à Charlebourg, puis il y a un flot qui l'a tout brisé avant qu'elle ouvre.
Les professeurs s'étaient plaints dans l'actualité, comme quoi, effectivement, il y avait des classes qui étaient encore mal tempérées, puis les chaleurs étaient épouvantables. Puis je me souviens de Bernard Drinville. Tu sais, quand on dit les politiciens devraient se rapprocher des gens qui sont en théâtre de guerre, là, qu'ils vivent à tous les jours. C'est quoi une école? Puis quand on veut amener quelque chose de nouveau à l'école, c'est quoi les processus et tout ça?
Bernard Drinville devrait être dans une école à tous les jours, une nouvelle école à tous les
jours.
Mais
surtout, parler à ces gens-là. Bernard Drinville avait dit, ben s'il fait chaud, achetez des climatiseurs puis mettez-les dans toutes les classes. Mais ben, un peu, il y a des écoles qui ont été bâties dans les années 60 là, qui sont encore ouvertes aujourd'hui. Le système électrique est pas mis en place pour accueillir tous ces climatiseurs-là.
Ben oui.
Fait que si tu commences à brancher tes climatiseurs sans demander de permission, mettons, à l'électricien, au concierge, puis à tous ceux qui sont concernés, ben tu vas faire péter quelque chose, puis ça peut être encore pire. Puis ce que la professeure disait, parce que c'est pas une professeure, excuse-moi, ce que la donatrice disait, parce que c'est une femme qui avait acheté des climatiseurs, ce qu'elle disait, c'est qu'elle a dû passer par tout un processus pour faire accepter justement ces 10 climatiseurs-là qu'elle avait fait don dans l'école où ses enfants allaient, où ses enfants fréquentaient. Mmh. Fait qu'il y a un processus. Fait que Bernard Drinville qui dit, lui, parce qu'il y a la caméra d'en face, il y a le micro sous le nez, puis il dit, ben là, s'ils ont trop chaud, ils ont juste à acheter des climatiseurs. La réalité sur le terrain n'est pas ça. T'as des multitudes de permissions à demander. Ça peut prendre des années, des années
juste
dans ce
cas-ci. Juste le papier pour la secrétaire, rappelle-toi, dans l'actualité, il y a 10 ans, je pense, là, elle avait fait comme un chemin de croix, finalement, elle l'avait acheté et elle avait eu une note à son dossier.
Oui. Dans son cas, elle, Pascal, de mémoire, c'était 10 mois de négociation pour pouvoir rentrer ces 10 climatiseurs-là pour les élèves qui étaient dans cette classe-là. Puis c'était quelque chose de donné. Là.
Mm-hmm.
Fait que quand Drinville dit, ben non, c'est facile, s'il fait chaud, mettez de la climatisation, ce gars-là ne savait à ce moment-là pas du tout ce qu'il disait.
C'est peut-être trop simple pour être possible. Moi, je le ferais tout le temps, il me semble, être ministre de l'Éducation, mais mettons juste un mois par année. Là. Tu prends 5 jours à chaque semaine, puis à chaque jour, tu fais une tournée des écoles. Comme Skid Row qui fait une tournée mondiale, mais à chaque jour, tu peux te faire un T-shirt, tu peux le vendre si tu veux, là. Puis marquer, bon, j'étais à Lévis le 27 août, le 28 août, je vais être à Repentigny, puis tout ça. Mais juste d'être dans un milieu de vie scolaire différent, mais primaire, secondaire, parler avec le monde.
Annoncez-vous pas.
Non, mais la présence des politiciens quand il y a des inondations, on disait que cet aspect-là, il est important pour voir les problèmes, pour les sentir physiquement, pour parler avec les gens directement qui vivent les problèmes. Si tu as deux pieds dans une école à tous les jours, tu pourras pas dire, ben, vous avez juste acheté des climatiseurs, tu vas savoir que ça marche pas de même.
Mais moi, je voudrais pas qu'ils s'annoncent parce qu'il y a une fierté aussi chez les artisans dans l'éducation puis tout. Puis de savoir que le ministre s'en vient dans ton école, peut-être que tu vas vouloir encore plus montrer ce qui fonctionne pas pour que ça s'améliore, mais ça se peut aussi que tu en fasses une visite du pape.
Je veux pas ouvrir une autre boîte de Pandore, mais il y a des visites d'inspection qui se font dans certains secteurs de vie où ils s'annoncent 7 jours à l'avance. Hey. Tu t'organises pour que tout soit beau, puis un coup que l'inspecteur est fini, ben là, tu recommences ta petite vie normale.
Je l'ai vécu ça pendant la pandémie.
Ouais.
Je faisais de la sécurité, j'étais bénévole, puis je faisais du brancardier. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Puis quand il y a eu la visite du CLSC, donc l'infirmière qui allait voir si tout était conforme, écoute, c'était annoncé d'avance. Puis tout avait été mis en place pour que tout le monde ait le masque, que tout soit parfait.
Alors que dans le quotidien, c'était pas ça.
Tout avait été maquillé.
C'est une vraie inspection si tu t'annonces à l'avance, dans
exact.
Le fond.
Mais je pense que ce qui m'agace, c'est vraiment le fait que les directeurs ne peuvent pas avoir ce pouvoir-là. Tu sais, ton école, là, il fait trop chaud dans les classes. Regarde, c'est soit qu'on s'adapte, qu'on s'en va dehors, on va dans des secteurs où il y a peut-être un peu plus d'ombre. On peut-tu acheter des Mr. Freeze parce que là, on sait que c'est juste aujourd'hui qu'il va faire chaud.
Ben oui.
Ou bien, on ferme carrément l'école. Mais de voir qu'on va donner expressément d'autres congés en banque que les profs vont pouvoir avoir par la suite vers la fin de l'année, je me dis, mais ça finira plus.
Mais il y a une culture de prendre son prochain pour un inapte dans le gouvernement, pour vrai, dans les structures gouvernementales, c'est qui sera le plus intelligent de la gang, mais souvent, c'est celui au sommet de la pyramide qui n'est pas sur le plancher des vaches, puis on ne laisse pas ceux qui travaillent au quotidien, justement, dans que ce soit la santé ou l'éducation, avoir un certain droit de veto sur des décisions, puis être capable de connaître son équipe puis pouvoir la défendre aussi. C'est mal vu, la défendre.
Les solutions, souvent, ils traînent à terre. Ils traînent à terre sur le terrain. Puis c'est de même dans tellement de catégories de dossiers qu'on jase à tous les jours. Je parlais avec un cycliste cet été. On pense ce qu'on veut des cyclistes qui sont un peu enragés, puis ainsi de suite. Puis un argument qu'on lui sert souvent aux cyclistes, « Mais là, pourquoi vous chialez? Vous avez vos pistes cyclables. Pourquoi vous allez dans la rue? Vous avez vos pistes cyclables. Ouais, mais nos pistes cyclables, là, c'est de la merde parce que ça, 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 ça. » Fait que là, j'ai demandé aux cyclistes, j'ai dit « Toi, il dit, t'ont-tu consulté quand ils ont fait les pistes cyclables? » Il dit non. Il dit, j'aurais eu une couple d'affaires à leur dire. Moi, je suis automobiliste. Ils m'ont-tu consulté avant de commencer les travaux? Ils m'ont pas consulté non plus. Puis souvent, c'est les usagers qui ont les réponses et souvent les solutions les plus simples. Les solutions viennent du terrain. On a un bel exemple dans l'actualité aujourd'hui, Yann. L'histoire de la bouchée généreuse.
Oui.
Tu sais, la solution était-tu dans l'hôtel de ville ou la solution était sur le terrain, dans le milieu, dans la communauté? Il y a un homme d'affaires qui a décidé de s'impliquer, de faire avancer le projet. Il est arrivé dans le bureau du maire. Vous dites, quin, le projet, il est fait. Tu donnes combien pour que ça marche? En gros termes, c'est ça qui est arrivé. Puis je pense qu'il y a une leçon à retenir de cet événement-là. Les frères Trudel qui sont des développeurs comme bien d'autres, des corporations privées comme bien d'autres, mais eux autres ont décidé qu'ils développaient avec le milieu. Puis je pense que c'est de même qu'il faut y aller le plus possible. Chaque école est différente.
Mais ils ont
ça
une
peut
attitude.
Pas être uniforme.
Ils ont une attitude, ces entrepreneurs-là au privé, des fois, qui est peut-être un peu différente de ceux qui travaillent dans ce qui est plutôt politique ou public.
Ouais, mais un directeur d'école devrait être fier de représenter son école, puis devrait être fier de dire « ça, c'est les problèmes de mon école, puis ça, c'est les solutions que j'ai trouvées avec les parents, les professeurs, puis peut-être même les élèves. »
Je trouve que des fois, à la mairie, depuis quelques années, c'est plutôt un « on peut pas faire ça, on ira pas là, on peut pas débiter. » Tout le temps complexe, là. Tout le temps, il n'y a pas de solution à amener sur la table, tandis que quelqu'un qui est dans le privé va arriver avec des solutions. On a un problème, on le règle comment? On n'a pas de temps à perdre parce que le temps, c'est de l'argent, puis le temps, c'est des investissements qui ne seront pas pris, puis des avancements perdus.
Je ne sais pas s'ils l'ont mentionné ce matin parce que tu étais de passage avec Reg, Marie-Pierre Gravel, ainsi que William Trudel, mais l'histoire du départ, c'est que Marie-Pierre a fait un tour dans les stations de radio, puis elle a parlé des besoins de la bouchée généreuse, à quel point il y avait énormément de gens, de plus en plus, mois après mois, qui se présentaient à la bouchée généreuse.
Ça fait 3 ans que ce dossier-là traîne. Hein?
Oui, ça fait effectivement 3 ans. Puis elle était à la radio, puis elle a dit, by the way, nous, on cherche un emplacement. Là. Ça fait des mois et des mois qu'on essaie de rejoindre le maire. Le maire ne veut pas nécessairement nous parler. On a pensé peut-être au Colisée Pepsi, la devanture là, où il y avait la grande entrée, le hall principal. Finalement, le maire s'était fait poser la question en disant non, c'est pas adapté pour ça. Puis pendant ces entrevues-là à la radio, David Chabot, qui est un bon ami à moi que j'aime bien, et un des conseillers principaux de William Trudel. Puis William Trudel était aussi à l'écoute. Puis on dit, OK, nous autres, on va faire quelque chose. Puis aujourd'hui, ça fait en sorte que la bouchée généreuse va se ramasser sucire dans le garage.
Ça fait aussi en sorte que, techniquement, les garages sucire ont servi plus après leur vie de garage sucire. On s'est fait vacciner là, puis là, on va aller manger là.
Il n'y avait pas un salon de coiffeur aussi à un moment donné.
Y a-t-il un salon de coiffeur?
Y a-t-il eu ça?
Je sais pas.
Il me semble que oui.
Ah ouais?
Oui, dans le vieux complexe de Fleur-de-Lys. Je suis pas mal sûr qu'il y avait un salon de coiffeur.
C'est parce qu'il est à l'extérieur, le garage.
Le garage est complètement dehors.
Complètement dehors. Ouais. Il est pratiquement sur le bord du boulevard Amel.
Fait que c'est pas la même pièce.
Non.
Ça. Je vous confirme qu'il n'y avait pas de barbier ou de salon de coiffeur.
Ouais. Ils peuvent peut-être bien faire tes cheveux au chalumeau. Là,
tant qu'à avoir la hausse à pression.
Hey, tout le monde a son mot à dire sur Kamala Harris ces temps-ci. Tout le monde a son mot à dire sur Donald Trump.
Quel show.
J'aime ça quand c'est de l'information qui est vérifiée. Là. Je trouve qu'il y a du débordement constamment. Trump est tout un personnage. Kamala Harris, on ne l'a pas bien connue en tant que vice-présidente des États-Unis pendant son mandat. Elle n'a pas été très active. Là. Je ne sais pas si, quand elle défendra son bilan, si on va apprendre des choses. Mais de voir que même le Québec se mêle de la politique américaine, je trouve ça incroyable.
Ben, le show est bon présentement, puis il y a une tendance. Hein. Quand il y a une nouvelle face qui arrive, il y a un buzz qui part.
Ouais.
Quand Donald Trump est arrivé puis qu'il s'est mis à brasser de la marde, c'était pas un buzz que tout le monde aimait, mais il y a eu un buzz quand même. Puis c'est dans ces événements-là, j'ai l'impression que des gens qui restent chez eux 80% du temps se disent « Hey, ce coup-là, je vais y aller. T'sais, pour Barack Obama, je vais y aller. pour Trump, je vais y aller. Puis là, ben, c'est Kamala Harris, je pense, qui bénéficie de ce buzz-là présentement de dire « Hey, je pense qu'on s'en allait dans le mur avec Biden, là. » Ou moi, je m'enlignais pour rester chez nous le soir des élections, tu sais, en rotant le ballonnet. Mais finalement, je vais y aller, tu sais.
Ouais. Les élections américaines, c'est extrêmement complexe, là, parce qu'ils passent par tout un processus. Ben oui. C'est pas mal plus simple au Canada, mais c'est tellement pas excitant au Canada actuellement avec Justin Trudeau qui est au pouvoir.
C'est un peu... ben écoute, on sait qui s'en va. C'est un autre bel exemple, ça, de pas préparer la relève. C'est qui le prochain chef du Parti libéral du Canada? T'sais? Quand la bombe est partie, y a-tu préparé de la relève? Pas vraiment.
Il y avait sa dauphine.
Ouais, ben il y a eu un dauphin, puis un moment donné, son dauphin, c'était de sa faute s'il n'y avait pas de parking dans le nouveau poste de police.
Fait parce que M. Julien...
Jonathan, il l'échappait.
Non, mais c'est ça. Sa dauphine, Marie-Josée Savard, qui a été élue pendant 2 minutes.
Oui.
Mairesse de la ville.
Elle, elle a vécu ce que personne veut vivre.
Hey. De te faire fort,
de te faire couronner, puis après ça, ah non, excusez, redonne-moi ta couronne.
Puis tu sais, dans 10 ans, elle va rencontrer du monde qui vont encore la connaître comme la mairesse qui n'a jamais mairé.
Ouais. Hey, je l'avais reçue en entrevue parce qu'elle est rendue ailleurs, puis tant qu'elle l'avait en studio...
Directrice d'école.
Tant qu'elle l'avait en studio, j'avais posé la question. Elle semblait saine avec ça.
T'sais, ah ouais?
C'est une erreur. C'est arrivé, mais elle dit, elle regrettait pas le travail qu'elle avait fait, puis ça semblait vraiment une personnalité agréable dans cette déconfiture-là. Là.
Mais c'est le fun, les nouveaux visages. Puis ouais. Ça crée un buzz. Quand Régis Labeaume est arrivé en politique, il y a eu une Labeaume-mania. Il y a plein de monde qui sont allés voter au municipal qui n'étaient pas nécessairement allés avant. Le discours de Bruno Marchand sur l'itinérance, le développement de certains secteurs de ville pendant la campagne électorale, il y a du monde qui se sont sentis interpellés par ça. C'est peut-être ça qui a fait la différence sur le résultat électoral le soir même. Quel que soit l'endroit où se déroule la politique, des nouvelles faces une fois de temps en temps, ça fait du bien. Puis Marceau, ben tabarnouche, si Joe Biden est un vieux sénile, il va falloir parler de Donald Trump, là. Parce que l'argument de la sénilité présentement... Là,
c'est sur Donald Trump?
Le problème est républicain. Je sais pas si t'as poigné ces derniers points de presse, ces dernières allocutions, puis j'ai commencé à suivre, c'est un groupe de républicains qui est contre Trump et qui sort les
toutes
pires
les
citations. Puis c'est drôle à mourir. Mais en même temps, moi, ce qui me fait rire, c'est un peu ça, c'est que... On savait que tu avais 2 politiciens vieillissants. Puis là, c'était de savoir c'était lequel le plus vieux puis le plus sénile des deux. Bon, là, il y a un mismatch. Clairement, le plus vieux puis le plus sénile des deux. Maintenant, c'est Donald Trump.
Non, demain, pour moi, il va falloir que ça demeure un débat d'idées. Puis il va falloir qu'il mette de l'avant son bilan de 4 ans en tant que président des États-Unis. Et de l'autre, de mettre son bilan de 4 ans en tant que... 3 ans en tant que vice-président des États-Unis. Il va y avoir un débat. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Et... Kamala Harris est capable de bien s'exprimer. Est capable du bien puis du pire aussi quand elle s'exprime. Là.
J'ai hâte de voir. J'ai très, très hâte de voir.
Mais Trump, j'espère juste qu'il ne l'attaquera pas. Parce qu'à partir du moment où il va l'attaquer, c'est sûr et certain que ça va être extrêmement mal perçu.
Moi, je pense qu'il y a des mots qui vont sortir dans ce débat-là qui ne devraient pas sortir dans un débat. Tu sais, quand on fait une promo pour la WWF, il y a des mots que tu peux utiliser. Je pense que Donald Trump va l'échapper. Il est en échappé présentement. Là, son obsession, c'est il y a plus de monde dans ses rassemblements que les miens. Puis là, faut que je dise à mon monde que le monde que vous voyez, c'est pas du vrai monde. C'est des lézards, c'est de l'intelligence artificielle, c'est du Photoshop. Là, il est obsédé par ça. Je trouve ça tellement drôle. C'est un concours de zizi.
Tragiquement, son dernier rassemblement, ça n'a pas été une grande carte marketing non plus.
Ah, le vent a tourné.
D'un bord comme de l'autre, ils vont essayer de chercher de la merde
ben
chez l'autre.
Ben oui.
C'est clair et net. Hey, vous t'embarques dans un défi demain, toi?
Oh boy!
C'est quoi ça?
Connaissez-vous Hot Ones?
Non.
Non.
Hot Ones est une émission américaine qui existe depuis plusieurs années, qui est disponible sur YouTube d'ailleurs. On invite des comédiens, des stars du sport, du show business et ainsi de suite.
La star du sport, ce sera Max Larouche. Ton comédien, ce sera... Véro est capable d'être comédienne.
Tu penses?
Oui.
Ah oh, oui? Ben oui, ben oui, c'est vrai. C'est elle qui jouait la Reine de glace là, dans le film de Disney.
Oh mon Dieu.
Donc, Hot Ones, le concept d'entrevue est simple, c'est que tu fais une dégustation d'ailes piquantes qui sont de plus en plus piquantes. Et l'intervieweur pose des questions de plus en plus épicées. Puis c'est de voir jusqu'où l'invité va se rendre sur l'échelle de Scoville.
Hey, c'est dur, parce que là, soit tu veux pas te confier ou pas te brûler toutes les papilles gustatives que tu as dans la bouche.
Moi, le résultat me fascine. Je suis un gros fan de cette émission-là depuis des années. Le concept a été repris en France, où Kaamelott lui-même, Alexandre Astier, s'est prêté au jeu, puis j'écoutais ça ce matin pour me préparer mentalement. Ça va commencer au Québec, c'est Marc-André Grondin qui anime ça. ça va commencer cet automne. Fait qu'on a décidé, nous autres, de se lancer dans le défi Hot Ones. On a rejoint les gens de Sauce Piquante au Grand Marché,
oui.
Qui vont venir nous présenter 5 sauces, OK? On va tremper du poulet popcorn dans les sauces, donc la sauce la moins piquante à 3 heures, à 3 heures et demie une autre sauce, à 4 heures une autre sauce, puis on monte comme ça jusqu'à 5 heures. Et à chaque fois qu'on fait une dégustation, on a demandé à nos amis des retours de week-end de nous préparer des questions. Donc, qui vont enregistrer, et à chaque fois qu'on va déguster une sauce piquante, on va répondre aux questions.
C'est des questions de plus en plus spicy,
ouais.
Aussi.
Normalement, ici, oui, okay, oui, okay. Exact.
Mais des ailes piquantes, c'est bon le soir même. Le lendemain, tu peux le regretter.
Il semble y avoir 2 barres, parce que là, j'ai écouté beaucoup d'émissions Hot Ones. Là. Il y a une barre à 100 000 sur l'échelle de Scoville.
Tu sais, même si tu as écouté beaucoup d'émissions, ça ne va pas te préparer à être meilleur demain. Là.
En fait, ça m'a rendu vraiment plus nerveux. Il y en a passé 100 000 Scoville, là. Ça prend du lait, du miel, puis ça, ouais, capote. Et l'autre catégorie, à 1 million, ils cassent tout. À 1 million sur l'échelle Scoville, il n'y a pas personne d'heureux.
Y a-t-il un danger à ça?
C'est sûr que oui, tu peux te percer quelque chose, l'estomac, ou je sais pas si...
Ça chauffe.
Ça, c'est un docteur qui t'a dit ça?
Ben non, moi, c'est moi. C'est vrai.
Moi, ce qu'on m'a dit, ça chauffe quand ça rentre et ça chauffe quand ça sort aussi. Puis entre les deux, ça peut faire des dommages. Donc, on verra.
On a bien des souvenirs. Denis Gravel, merci.
Hey, thank you.
Salut, à suivre demain.
T'es un fan de podcast?